Amen. Vous avez vos Bibles avec vous? C'est toujours mieux d'avoir sa Bible. Normalement, vous devriez savoir où c'est qu'il faut l'ouvrir, parce que je varie pas beaucoup ces derniers temps. Vous pouvez déjà l'ouvrir à la fin de l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie. Est-ce que vous avez déjà eu, plutôt dans votre jeunesse, j'imagine, un livre de souvenirs? Si je parle de livre de souvenirs, est-ce que à vous ça vous parle? Eh bien moi, quand j'étais petite, voilà, j'avais 8 ans. Quand j'avais 8 ans, j'ai reçu un livre de souvenirs. C'est un livre qui avait une belle couverture. À l'époque, il tenait tout seul. Maintenant, il est un peu en pièces détachées parce qu'il a vécu. Et dans ce livre, il y avait des pages blanches. Et en fait, quand je l'ai reçu, je l'ai donné à des personnes que j'appréciais, à mes parents, à mes sœurs, à des copains et des copines de classe. Et ils m'ont fait des dessins. Vous avez en primeur le dessin de ma petite sœur qui avait à peu près 3 ou 4 ans puis qui aimait bien faire des chenilles. Voilà. Et puis c'était toujours en souvenir de ta sœur, en souvenir de ton copain un tel, en souvenir de Patricia, en souvenir de... Et c'était vraiment un objet vraiment précieux parce que régulièrement, je reprenais mon livre de souvenirs puis j'allais regarder qui c'est qui m'a fait des dessins ou qu'est-ce qu'ils m'ont écrit. Le livre de souvenirs, c'est vraiment quelque chose qui était important. À l'époque où on distribuait ce livre un petit peu dans toutes nos connaissances qui nous étaient chères. Eh bien, du temps de Malachie, il y a aussi un livre de souvenirs. Mais ce livre, il n'a pas été distribué ou il n'a pas été à disposition ou il n'y a pas la mention de tout le monde à l'intérieur. Parce que, comme on l'a déjà vu depuis le début, il y a une différence. Il y a une différence et puis on y arrive à cette différence. Alors, je vous propose de lire déjà dans Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 13. C'est l'avant-dernière prédication sur Malachie. On aura vraiment parcouru tout le livre et là, on arrive bientôt au bout. Alors, vous vous souvenez sûrement du contexte. On est 100 ans après l'exil, le peuple d'Israël est retourné à Jérusalem, mais il est dans un état lamentable au niveau spirituel, au niveau social, au niveau des mœurs. Il a des gros problèmes d'ingratitude, il doute de l'amour de Dieu, il est négligent par rapport aux choses de Dieu et du culte, il est adultère, il est idolâtre, il est cupide. La dernière fois, on a vu qu'il négligeait les dîmes et les offrandes. Donc, en fait, ce livre de Malachie, il passe en revue un peu tous les problèmes fondamentaux qu'avait le peuple hébreu à ce moment-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est que là, on arrive à un moment donné où le clivage, il est de plus en plus définitif. Il y a vraiment un fossé qui est en train de se creuser entre les gens du peuple d'Israël qui craignent Dieu et ceux qui se perdent. Et dans le passage qu'on va lire ce matin, on a en fait le dernier reproche de Dieu au peuple par la bouche de Malachie. On aura vu 6 tableaux où Dieu fait des reproches au peuple, toujours pour un sujet bien particulier. Et là, le reproche, ça concerne des murmures. Il semblerait que dans les foyers, ça murmure, ça râle. Alors, lisons dans le chapitre 3 de Malachie, les versets 13, 14 et 15. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Les gens du peuple de Juda, ils murmurent, ils se plaignent entre eux. Ils trouvent que servir Dieu ne leur rapporte rien et que Dieu, en plus de ça, il accorde sa faveur à ceux qui ne la méritent pas. Et qu'est-ce qu'ils disent là? Ils disent « c'est en vain que l'on sert Dieu ». Qu'est-ce qu'on a gagné? Quel est le profit qu'on a fait? C'est terrible parce que ce mot de gagner ou de profit qui est utilisé, en fait, ça touche à la cupidité, au butin, à l'avidité. C'est un profit qui est acquis avec violence, de manière malhonnête. Et le peuple, il dit, mais qu'est-ce qu'on n'a rien gagné de manière malhonnête, de manière violente? Tout ce qu'on a pu faire, on n'a rien réussi à voler quelque part. En fait, ils ont leur mentalité qui est faussée, qui est pervertie, et ils râlent, on sert le Seigneur, et puis il ne se passe rien, on n'arrive même pas à en tirer un bénéfice. Et en plus de ça, on marche avec tristesse, et Dieu ne le voit pas. On marche avec tristesse, ça veut dire que, en fait, ils marchent dans le deuil, ils marchent dans le jeûne, ils marchent dans le sens, ils vivent, ils ont des habitudes de jeûne. Peut-être même qu'à des moments, ils se mettent dans le sac et la cendre, dans l'obscurité, ils se mettent dans des conditions pas possibles pour montrer à Dieu, mais regarde, regarde comme nous te servons et c'est difficile, le service pour toi. Et on est dans la tristesse, on est dans le jeûne, on jeûne deux fois par semaine, on va au temple tout le temps, on va prier du matin jusqu'au soir, on prie, puis il se passe rien. On n'a aucun profit. Voilà l'état du peuple. Qu'est-ce qu'ils sont? Dans quel esprit est-ce qu'ils sont, ce peuple? Eh bien, ils ont un esprit de mercenaires. Ils combattent. Ils combattent pour une solde et pas pour une cause. Ils recherchent un profit plutôt que chercher l'intérêt de Dieu. Ça, c'est l'état de leur cœur. Et le fait qu'ils se mettent dans une situation de tristesse, de contrition, eh bien, en fait, c'est l'esprit du pharisaïsme. C'est l'esprit des pharisiens. C'est l'esprit qui a fait que depuis le temps de Malachie jusqu'au temps de Jésus et même après, il y a eu cette secte des pharisiens, des religieux qui se sont mis plein de lois que Dieu n'a même pas demandées et qui font qu'en fait, ils croient qu'ils servent Dieu puisqu'ils font plein de choses, mais l'état de leur cœur, il est vraiment tordu, il est vraiment pas juste. En fait, ils cherchent du profit, mais ils ont oublié que pour avoir du profit, il faut respecter le principe bancaire. Si on veut retirer quelque chose dans une banque, ben déjà, il faut avoir ouvert un compte, on est d'accord, mais il faut l'alimenter, le compte. Qu'est-ce que tu veux retirer comme profit si tu ne mets rien sur le compte? Eh bien, c'est la même chose pour Dieu. Dieu nous demande d'investir quelque chose d'authentique. Si on va mettre à la banque de la fausse monnaie, non seulement on ne va pas en retirer de la bonne monnaie, mais en plus de ça, on va avoir des problèmes. Eh bien, c'est exactement le même principe. Dieu demande à ce qu'on investisse quelque chose qui vient du cœur, quelque chose d'authentique, quelque chose qui prouve qu'on l'aime, quelque chose qui prouve qu'on aimerait le connaître, quelque chose qui prouve qu'on cherche le cœur à cœur, qu'il est important pour nous et qu'on veut lui obéir, qu'on veut le suivre dans tout ce qu'il nous a dit. Mais voilà que le peuple, il n'en est vraiment pas là dans ses compréhensions et dans ses motivations. Parce qu'en plus de ça, ils font des comparaisons. Je ne sais pas si vous vous comparez des fois, sûrement pas. Sûrement pas, mais eux, oui. Voilà ce qu'ils disent au verset 15. « Maintenant, nous estimons heureux les hautains ou les orgueilleux, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. » C'est vraiment étonnant parce qu'ils tentent Dieu, ben en fait, on a exactement la même expression dans le paragraphe avant où il est question des dîmes et des offrandes quand Dieu dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. » C'est exactement le même mot qui est utilisé où là, le peuple il se plaint, il dit « Il y en a qui sont orgueilleux, ils mettent Dieu à l'épreuve et puis ils récoltent. Et puis ils sont bénis et puis ils sont dans l'abondance, mais pas nous. » Alors ils sont en train de se dire « Mais ce n'est pas juste, ceux qui ne servent pas Dieu, ils sont dans l'abondance, ils se prospèrent, tout va bien et pas nous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de différence ?» entre nous, peuple d'Israël, peuple de Dieu, et les autres. Eh bien, en fait, ces gens orgueilleux, ces gens hautains, on ne sait pas exactement qui c'est. est-ce que c'était des juifs? Est-ce que c'était des juifs qui n'étaient pas vraiment proches du cœur de Dieu? Est-ce que c'était des païens, donc des gens qui ne croyaient pas du tout au Seigneur, qui n'appartenaient pas à son peuple? On ne sait pas exactement. Mais on se rend compte qu'il y avait comme une espèce d'injustice, qu'il y avait des gens qui étaient méchants, qui étaient hautains, qui cherchaient à faire du profit et puis qui réussissaient, mais pas le peuple hébreu. Et on se demande pourquoi tout le monde est mélangé. Comment ça se fait? Alors, on va le voir. Si Dieu laisse faire, si Dieu laisse une espèce de mélange, qu'on ne voit pas la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, eh bien c'est seulement pour un temps. Ça ne va pas toujours durer comme ça. Mais le peuple, à ce moment-là, ils ne s'en rendent pas compte. Ils n'ont vraiment pas cette compréhension. Ils voient vraiment à court terme. Alors, arriver à ce stade, c'est bien aussi de nous qu'on puisse se poser la question. Est-ce que ça nous est déjà arrivé de chercher un certain profit à servir Dieu? Il y a certains ministères, peut-être, qui cherchent un certain profit financier. Mais des gens qui ne sont pas dans le ministère ou dans le ministère officiel, parfois nous cherchons aussi un profit. Ça peut être d'être béni, ça peut être d'être guéri, ça peut être que Dieu nous ouvre des portes incroyables, ça peut être beaucoup de choses et souvent Dieu nous bénit. Mais la motivation de notre cœur, qu'est-ce qui fait qu'on sert Dieu? Est-ce que c'est parce qu'on reconnaît qu'il est Dieu? Parce qu'on reconnaît qu'il est grand, qu'il est saint? Parce qu'on a une révélation de sa personne? Ou est-ce qu'on cherche juste ses bénédictions et ses solutions à nos problèmes? Des fois, c'est bien de se poser la question juste pour savoir quelle est la motivation qui est au cœur de mon cœur. Donc, on l'aura compris pour cette partie du peuple qui râle, qui murmure, eh bien, pour eux, il n'y a pas de livre de souvenirs. Mais un reste, un groupe de personnes parmi ce peuple qui est débauché, qui est idolâtre et ingrat, il y a un petit groupe qui se démarque. Il y a un petit reste qui fait la différence et Dieu, il le voit. Alors, on peut lire les versets suivants de Malachie 3, le verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. De tout temps, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a toujours eu un reste. Un reste, c'est-à-dire un reste, ça fait un drôle de mot, mais c'est un petit groupe. Il y a toujours eu un petit groupe qui est resté fidèle à Dieu. Et ça, par exemple, on le voit au début de l'Ancien Testament avec Noé. Noé, il était dans un peuple complètement débauché, idolâtre, un peu comme aujourd'hui. Et ils étaient très peu, juste une famille. C'était un reste qui restait fidèle à Dieu. Et ils ont été sauvés. Et ensuite, les prophètes ont beaucoup, beaucoup parlé d'un reste qui demeure fidèle à Dieu. Et là, on voit ce reste qui craint Dieu, qui honore Dieu. Et qu'est-ce qui est marqué? C'est qu'ils se parlent les uns aux autres. De quoi est-ce qu'ils se parlaient? Eh bien, ils parlaient de Dieu. Il y a marqué qu'ils craignent l'Éternel et ils honorent son nom. Et ils honorent son nom, c'est pas la même chose que quand on dit « honore ton père et ta mère ». C'est pas le même terme. « Honore ton père et ta mère », ça veut dire « donne du poids à ton père, à ta mère ». Donne-leur de l'importance, l'importance qu'ils méritent. Mais là, c'est un tout autre mot qui est utilisé. Il a plus de 30 significations, ce mot. On peut presque l'utiliser à toutes les sauces. Ça veut dire imputer, regarder, prendre, méditer, changer, tenir compte, considérer, évaluer, etc., etc. Il y en a plus que 30. Alors en fait, quand les gens se parlent l'un à l'autre parce qu'ils honorent le Seigneur, ben, ils sont en train de se raconter les choses de Dieu. Ils racontent les merveilles de Dieu. Ils imputent à Dieu des choses. Ils sont en train de dire, mais regarde ce que Dieu a fait. C'est lui qui a créé cette chose-là. Regarde comme c'est merveilleux. et il considère les œuvres de Dieu, et il considère sa justice, sa valeur. Ils se disent, mais Dieu, comment est-ce qu'il pense dans telle situation? Et ils essayent de penser à la même chose. Quels sont les projets de Dieu? Et ils essayent d'entrer dans ces projets. Et ils se parlent l'un à l'autre pour connaître Dieu, pour s'exhorter, pour rester fidèles, pour se dire, mais regarde, Dieu là, dans sa parole, il a dit telle chose, alors il faut que nous on fasse la même chose. Et ils s'exhortent, ils se stimulent les uns les autres, ils s'encouragent, ils se bénissent, ils prennent des temps de louange ensemble, ils prient ensemble. Et tout ça, Dieu le voit. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. C'est parce qu'il y a eu cette motivation de cœur que Dieu, à ce moment-là, il intervient et un livre de souvenirs est écrit. Alors, qui est-ce qui a écrit le livre? Est-ce que c'est le peuple ou est-ce que c'est Dieu? C'est pas très clair, là, comme c'est écrit. On ne sait pas trop. Mais la notion du livre, c'est aussi quelque chose qu'on a dans toute la parole. Ben déjà, rien que d'avoir la Bible, c'est plusieurs livres. Et c'était aussi, à l'époque de l'Ancien Testament, c'était une habitude de noter des choses, de tenir des registres. On l'a, par exemple, à l'époque des rois. Il y a les annales des rois, il y a les chroniques des rois. On écrivait des choses pour se souvenir. Et un des bons exemples que j'aimerais prendre, c'est dans le livre d'Esther. Esther, c'est donc la période perse. Il y a Mardoché, à un moment donné, Mardoché, l'oncle d'Esther, qui a entendu deux personnes qui voulaient faire un attentat contre le roi. Et puis, grâce à Mardoché, l'attentat n'a pas eu lieu. Et à cause de ça, on a écrit son nom dans un livre de souvenirs. Alors ça, je vous le lis dans Esther, au chapitre 2, le verset 21. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Et quelque temps après, le roi a été pris d'insomnie. Il était couché et ne pouvait pas dormir. Cette nuit-là, au chapitre 6 du livre d'Esther, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigthan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi. Le roi dit « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela ?» Alors, on ne va pas aller plus loin dans le livre d'Esther, mais c'est pour vous montrer le livre de souvenirs, à quoi ça peut servir. Quand un nom est écrit dans un livre de souvenirs, avec ce que la personne a fait, à un moment donné, ce livre, il peut être ouvert devant le roi. Et on sait que dans le ciel, il y a un livre de vie. Et un jour, devant le roi des rois, devant le Père des Lumières, devant Dieu éternel, ce livre de vie sera ouvert. Est-ce que nos noms sont inscrits dans ce livre de vie? Ce principe de livre de vie, il est connu depuis longtemps, depuis avant la reine Esther. Par exemple, dans le livre d'Exode, Moïse, il en parle. Exode, au chapitre 32, les versets 32 et 33, le peuple vient de faire un veau d'or. Et Moïse, il est complètement catastrophé parce qu'il se rend compte combien c'est grave. Et voilà ce qu'il dit. « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Cette notion du livre, elle est là depuis le début. Et elle sera là jusqu'à la fin. L'apôtre Paul aussi, il en parle dans les Philippiens. Quand il dit à la fin du livre des Philippiens, « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Aujourd'hui, pour ceux qui cherchent le Seigneur, ceux qui cherchent à le connaître en vérité, à le craindre, à l'honorer, aujourd'hui, il y a encore un livre. Il y a encore ce livre de vie, ce livre de souvenirs devant l'Éternel. Et pourquoi c'est comme ça important d'avoir notre nom inscrit dans un livre? Eh bien, justement pour faire la différence. Et on peut le lire dans le verset 17 de Malachie. Voilà ce que l'Éternel dit après que ce livre a été écrit. Ce livre où on ne sait toujours pas si c'est Dieu qui l'a écrit ou si c'est le peuple, mais c'est un livre qui va exhorter le peuple, qui va l'aider à se souvenir, qui va l'encourager et qui va lui certifier la grâce de Dieu. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Au jour que je prépare, voilà ce que Dieu dit. Ils seront à moi au jour que je prépare. On est à la fin de l'Ancien Testament, donc on sait que le livre suivant, c'est celui de Matthieu quand Jésus va naître, alors que là, Malachie, il parle de quelque chose qui va avoir lieu beaucoup plus tard. Il est en train de parler de la deuxième venue de Jésus, pas de la première. Il est en train de parler du jugement. À un moment donné, le jour que Dieu prépare, c'est ce jour du jugement. C'est ce jour où Jésus revient en gloire sur la terre pour instaurer son règne. Et à ce moment-là, il y aura un tri. Il y aura un tri entre ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie et les autres. Et Dieu dit, ils seront à moi, ils m'appartiendront. C'est un peu comme le berger. C'est un peu comme le berger qu'on a vu la semaine passée, qu'on a vu la semaine d'avant, le berger dont il est question dans Jean 10. Les brebis appartiennent au berger. Elles reconnaissent sa voix, mais lui, il les connaît aussi. Il sait combien il en a. Il les connaît parfaitement. Il sait lesquelles sont fragiles, il sait lesquelles sont nées il n'y a pas longtemps, lesquelles sont plus âgées. Il sait tout ça. Il connaît même leur caractère. Il sait très bien laquelle va s'éloigner du troupeau puis qu'il va falloir aller rechercher. Il sait exactement. Et vous savez quoi? Moi, je crois que le berger, il tient un registre. Parce qu'il a un grand troupeau. Et à chaque fois qu'il y a des nouvelles brebis qui viennent au monde, il faut les mettre dans le registre. Il faut mettre leur date de naissance et puis il faut dire comment est-ce qu'elles vont. Et il y a de l'importance pour chacune d'elles. Elles sont aussi inscrites dans un livre, comme nous. Nous sommes les brebis et nous sommes inscrits dans le livre de vie. Et le berger, il n'emmène pas toutes les brebis. Le berger, quand il va emmener ses brebis dans un temps de repos, et c'est ce qui sera caractérisé par ce temps de jugement, c'est que le jugement, il sera terrible pour ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, mais pour ceux qui sont inscrits, le berger va prendre son troupeau et l'amener au bord des eaux paisibles, dans des verts pâturages, dans un endroit de repos. Ceux qui se démarquent du monde corrompu dans lequel ils se trouvent attirent la faveur toute-puissante et éternelle de Dieu sur eux. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie et Dieu les protège, il étend sa compassion sur eux. C'est ce qui est écrit ici dans le livre de Malachie. Et au verset 18, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et vous verrez de nouveau la différence. » Pourquoi il y a ce « de nouveau » ? Eh bien, parce qu'au tout début du texte qu'on a lu, le peuple qui s'énerve contre Dieu, il dit « oui, mais le méchant, il prospère ». En fait, on ne voit pas de différence. Depuis des siècles, on ne voit pas la différence. Et là, Dieu dit « oui, mais il y a un moment donné, quand mon jugement va venir, vous reverrez la différence ». La différence, on la voyait, par exemple, du temps du peuple hébreu qui était en Égypte, avec le Pharaon. La différence, c'était la faveur de Dieu sur le peuple hébreu, mais pas sur le peuple égyptien. Puis tout à coup, au fur et à mesure des siècles, on n'a plus vu cette différence. Tout le monde s'est un peu mélangé, tout le monde est tombé dans la débauche, dans l'adultère, dans l'idolâtrie, etc. Et on ne voyait plus la différence. Et ceux qui maintenant font la différence, ils sont soumis aux mêmes difficultés. Ils sont soumis aussi à la maladie, ils sont aussi soumis à la pauvreté, ils sont soumis aux injustices. On le voit au niveau des chrétiens, par exemple, les chrétiens persécutés. Et même nous, on subit aussi des injustices. Il y a des moments où on voit plus la différence. Mais si dans notre cœur, on fait la différence, si dans notre cœur, on se démarque et qu'on n'entre pas dans la mentalité du monde, alors quand Jésus revient lors de son jugement, là, on verra de nouveau la différence. Parce que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie seront protégés et gardés en Dieu. Ils seront dans le paradis de Dieu, ils seront dans le royaume de Dieu, là où il n'y a que de la justice, là où il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de deuil. Eux, ils y seront, mais pas les autres. Il y a un tri qui se fait et ça se décide maintenant. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de l'Avent. Ce soir, on pourra allumer une deuxième bougie. C'est une coutume qui date depuis longtemps de faire une couronne de Noël pour annoncer Noël, pour annoncer la venue de Jésus. C'est la période de l'Avent. Moi, quand j'étais petite, la période de l'Avent, ça voulait dire avant Noël. C'est pas après Noël, c'est avant Noël. Et en fait, non, ce mot avant, il s'écrit pas comme ça. Il s'écrit A-V-E-N et pas A-N. Parce que ça vient pas de avant ou après, ça vient de adventus, c'est un mot latin qui veut dire venu. La période de l'Avent, c'est la période où on attend la venue de Jésus. Et on attend, bien sûr qu'on attend sa naissance, c'est ce qu'on va célébrer quand on aura allumé nos quatre bougies, on va célébrer la naissance de Jésus, on va célébrer sa naissance en tant que bébé. Mais en fait, la période de l'Avent, c'est beaucoup plus que ça. On attend l'incarnation de Dieu, c'est-à-dire on attend que Dieu, Dieu des cieux, Dieu qui remplit les cieux, s'abaisse tellement qu'il prend la forme d'un bébé, d'un homme qui va grandir. C'est Dieu qui vient rejoindre la terre. C'est un phénomène, j'aime utiliser ce mot, c'est un phénomène cosmique. Ça touche au cosmos, ça touche autant à la terre qu'aux cieux, qu'à ce qui est spirituel, qu'à ce qui est terrestre, naturel, surnaturel. À un moment donné, il y a cette réunion qui vient dans la personne de Jésus. Donc la période de l'Avent, c'est pas seulement le petit bébé dans la crèche, emmailloté de l'ange et couché dans la paille sèche. C'est beaucoup plus que ça. C'est la venue de Dieu incarné en homme. Mais c'est surtout l'attente de sa venue en gloire. En fait, on attend la deuxième venue de Jésus, on attend le retour de Jésus, on attend l'établissement définitif du règne de Dieu sur la terre. Voilà ce qu'on attend. Voilà ce qu'on est en train de célébrer quand on allume nos bougies, une de plus chaque dimanche jusqu'à Noël. C'est quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus intense que juste le bébé dans la crèche. Voilà ce que Dieu est en train de dire au peuple à l'époque de Malachie. Voilà ce que Dieu est en train d'annoncer. Alors pour nous aujourd'hui, eh bien c'est bien de se poser des questions, de réfléchir à certains aspects. Quelles sont les motivations de mon cœur à servir Dieu? Ça fait du bien de s'arrêter pour se poser ces questions-là, mais vraiment, vraiment, quelles sont mes motivations? Moi, je sais que mes propres motivations ne sont pas toujours bonnes. Mais le fait de me poser la question fait que je vais aller chercher les bonnes motivations. Et si je me rends compte que j'en suis pas là, eh ben, je vais voir, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir des meilleures motivations? Par exemple, est-ce que je suis capable d'avoir en ligne de mire le retour de Jésus? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait peur? Est-ce que quelque chose qui ne me touche pas? Est-ce que c'est quelque chose dont je me réjouis? Eh bien, pouvoir répondre à ces questions, ça nous permet aussi de mettre des choses en place pour en faire une priorité dans la joie, dans la confiance. Travailler, marcher dans cette direction-là. De quelle manière est-ce que je cherche à connaître Dieu? De quelle manière est-ce que l'Église cherche à connaître Dieu, à l'honorer, à le craindre, comme c'est écrit dans Malachie? De quelle manière est-ce que à deux ou trois, en petit groupe ou en église, on peut s'exhorter à honorer Dieu, c'est-à-dire à lui donner du poids, à raconter ses merveilles, à s'exhorter, à parler de lui à chaque fois qu'on se rencontre? Comment est-ce qu'on peut faire pour, par deux ou trois simplement, mettre des choses en place pour prendre l'habitude de parler des merveilles de Dieu et apprendre à le connaître ensemble? Et comprendre que je suis et nous sommes appelés à faire la différence ici sur terre, et nous ferons aussi la différence, ou Dieu fera la différence quand lui viendra nous chercher. Alors je vous encourage à faire ce vœu, à prendre cette décision d'être fidèle à Dieu, même si ceux qui vous entourent ne le font pas, même si vous êtes dans un monde oppressant, difficile. Envisagez d'écrire votre propre livre de souvenirs et faites en sorte que votre nom soit toujours inscrit sur le livre de vie. Entourez-vous d'un groupe de personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes convictions, les mêmes aspirations. Trouvez des gens avec qui partager les choses de Dieu. Gardez en perspective le long terme, le très long terme, dans tous vos choix. Et je vous laisse avec ce verset de l'Apocalypse, Apocalypse 3, enfin les versets 4 et 5, comme conclusion. Cependant, tu as à Sardes, tu as à la Chaux-de-Fonds, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Je vous propose juste de prier et après je passerai la parole à Denis. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour tes projets. Jésus, je te remercie pour tes projets de vie. Je te remercie parce qu'un jour, tu t'es incarné, un jour tu as pris le corps mortel, le corps humain, le corps de chair d'un homme. Un jour tu as accepté que le ciel vienne sur la terre. Un jour tu as accepté de venir poser tes pieds sur notre sol. Un jour tu as accepté de réunir toutes choses en toi. Seigneur, merci pour ta première venue. Merci parce que tu es venu nous appeler, tu es venu instaurer quelque chose de nouveau sur terre. Mais il y a encore quelque chose d'autre qu'on attend. On attend encore ta venue. Je te remercie parce que cette venue, elle sera glorieuse. Et je te remercie parce que tu as prévu de nous prendre avec toi, de nous garder comme des fils et des filles bien-aimés. Tu as prévu d'avoir compassion de nous. Tu as prévu de nous mettre à l'abri, de nous garder contre ton cœur, de nous donner une place dans les cieux pour régner avec toi. Je te demande que chacun d'entre nous qui a entendu ce message puisse garder son cœur plus que toute autre chose jusqu'à ton retour. Je te demande que pour ceux qui craignent encore ce moment-là puissent vivre des choses avec toi dans le temps qu'il nous reste à vivre ici, pour que chacun puisse avoir son cœur transformé. Que chacun puisse avoir des révélations de ton amour, de ta grâce, de ta divinité. Que chacun reçoive les révélations dont il a besoin pour pouvoir se réjouir et se préparer pour ce moment-là. Et que tous ensemble, nous nous exhortions à nous parler les uns aux autres de toi. À raconter tes merveilles, à s'encourager, à faire la différence pour que toi, le moment venu, tu fasses la différence. Merci Seigneur de nous aider pendant cette période de l'Avent qui reste à comprendre ce que nous célébrons quand nous célébrons Noël, à comprendre que c'est tellement plus que ce dont on a l'habitude. Merci pour ta parole qui nous enseigne, qui nous exhorte, qui nous encourage à aller de l'avant avec toi. Merci pour ta grâce d'avoir touché nos cœurs pour qu'on entende ta voix. Et merci pour ta grâce, parce que tu toucheras encore nos cœurs au moment où tu reviendras, pour qu'on reconnaisse ta voix. Merci Seigneur Jésus, tu es notre divin berger. Merci mon Dieu. Amen.